Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a officiellement annoncé l'octroi d'un statut spécial à la cité d'Nkamba, désormais appelée à être élevée au rang de ville sainte. C'était son lundi 6 avril à l'occasion de la commémoration de la journée nationale dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu. En Ituri, la situation sécuritaire est préoccupante à Mambasa Centre, successivement ciblée par des attaques des ADF. La société civile locale dénonce l'inefficacité des opérations militaires face à ces rebelles. Ils sont accusés d'avoir tué près de 100 personnes en 2 semaines. L'invité de ce journal est le coordonnateur de l'église de Mangembo dans le Maniema. Jacques Samine parle du dialogue communautaire tenu la semaine dernière à Kindu sur les difficultés d'accès à l'eau potable dans cette partie du territoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État a officiellement annoncé l'octroi d'un statut spécial à la cité d'Nkamba dans la province du Congo central, désormais appelée à être élevée au rang des villes saintes. Félix Tshisekedi a exprimé cette intention ce lundi à Nkamba à l'occasion de la commémoration de la journée nationale dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu. Cette décision entend renforcer la portée spirituelle et culturelle de ces lieux surnommés Nkamba Jérusalem, tout en reconnaissant l'influence majeure du kimbanguisme dans l'identité nationale congolaise. Plus de détails avec vous, Blaise Mayanda, Blaise Nongala Mayanda.
C'est sous une pluie battante que le président de la République a fait son entrée à la cité de Kamba, à environ 170 km de Kinshasa, pour célébrer la journée qui symbolise le 105e anniversaire de la création de l'église kimbanguiste. Pour cette édition 2026, cette commémoration a pris une dimension historique particulière. Lors des cérémonies officielles à Kamba, le chef de l'État a officiellement exprimé son engagement d'élever la cité de Kamba au rang des villes saintes.
Le 6 avril est décrété journée chômée et payé en RDC. Après avoir échangé avec Papa Simon, j'ai pris la décision d'octroyer un statut spécial à la cité d'Nkamba qui devient désormais une ville sainte.
Cette décision renforce les rôles spirituels et culturels de ces lieux, souvent appelés Kamba Jérusalem, et reconnaît l'influence majeure du kimbanguisme dans l'identité nationale congolaise. Au-delà de la communauté kimbanguiste, cette journée est devenue un rendez-vous pour tous les Congolais afin de valoriser l'histoire nationale, de renforcer le patriotisme chez les jeunes générations et de promouvoir l'unité nationale dans un contexte de défis sécuritaires et sociaux. Politico. En célébrant Simon Kimbangu, la RDC réaffirme sa volonté de se réapproprier son récit historique et de placer les valeurs de liberté et de justice au cœur de son développement.
En Ituri, une nouvelle incursion attribuée aux rebelles des ADF a semé la panique dans les territoires de Mambasa, où de nombreux habitants des quartiers périphériques ont fui vers le centre pour se mettre à l'abri et les activités tournent au ralenti. L'attaque s'est produite dans la nuit de dimanche à ce lundi au quartier Arua 2, à environ 165 km au sud-ouest de Bounia. La société civile locale dénonce l'inefficacité des opérations militaires face à ces rebelles, accusés d'avoir tué près de 100 personnes en 2 semaines. Des détails avec Isaac Remo.
La population de Mambasa Centre a été surprise par des coups de feu vers 22h au quartier Arua 2. Des tirs attribués à des rebelles des ADF venus de leur bastion situé à environ 4 km à direction de Ndimo. Les bilans provisoires fait état de 2 civils blessés, des bâtiments abritant quelques boutiques incendiées. Pris de panique, les habitants des quartiers périphériques ont afflué vers les centres de Mambasa pour se mettre en sécurité. Selon la société civile du Congo, l'intervention des forces de l'ordre en patrouille a permis de limiter les dégâts après des échanges de tirs avec les assaillants. Mais cette structure citoyenne dénonce l'inefficacité des services de sécurité face aux exactions des ADF qui continuent de gagner du terrain. Marie-Noël Anotane.
Il y a une sorte de détérioration de la situation sécuritaire pendant un territoire sous le sein des sièges. Quand le gouvernement provincial ne prend pas en compte la situation de l'ambassade, comme après la situation de Zougou en compte, il y a des opérations qui se mènent en Zougou. Pourquoi ici ça ne se mène pas?
De son côté, le porte-parole de l'armée en Ituri indique que l'intervention des FARDC a été rapide. Elle aurait permis de neutraliser 5 combattants ADF et de récupérer des armes après avoir mis l'ennemi en déroute. Par ailleurs, 3 otages des ADF, tous des enfants de moins de 10 ans, ont réussi à s'échapper lors des affrontements. Un homme, présumé membre des ADF, a été lynché puis brûlé vif par la population en colère. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et toujours en Ituri, en bref, dans les territoires des Djougou, l'armée annonce avoir neutralisé 6 éléments de la rébellion Convention pour la Révolution Populaire, la CRP. Ces affrontements ont eu lieu hier dimanche aux environs de Fataki, avant de se poursuivre ce lundi matin près du site de la plaine Savo. Selon des témoins, des habitants des villages Ludinga, du site de Lala et de Kameke ont été réveillés par des tirs nourris d'armes lourdes et automatiques. Ces attaques ont plongé les populations, y compris les déplacés, dans une panique générale. Un calme précaire s'observe actuellement dans la zone après que les forces loyalistes ont réussi à repousser la menace. Par ailleurs, la frontière entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud est sous haute tension. La fondation Kinalego tire la sonnette d'alarme face à la progression des éleveurs Mbororo dans les territoires des Djougou. Entre enlèvements et tueries, l'ONG appelle les autorités à une intervention sécuritaire urgente. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Le cri de détresse vient de la fondation Kinalego, lauréate du prix Alison des Forges. En cause, la porosité de la frontière avec le Soudan du Sud. C'est par cette voie que s'infiltrent les éleveurs nomades Mbororo, sémant la terreur dans les territoires de Dungu. Dans cette partie de la province du Haut-Ouélé, les exactions contre les civils se multiplient de manière alarmante. Le dernier incident en date remonte au 29 mars dernier. Trois personnes ont été enlevées par ces hommes armés et amenées vers une destination inconnue. Un épisode qui s'ajoute à un bilan déjà lourd. Florentin Kinalego, coordonnateur de l'ONG, rappelle qu'à la fin du mois de février, au moins trois autres civils ont perdu la vie lors d'attaques ciblées à Mediapay et Ngili. Craignant pour leur vie, des centaines de familles ont abandonné leur foyer. Ce mouvement de population vers les localités d'Apodo, Ndou, Mungbere ou encore Gombari crée une pression humanitaire croissante dans ces zones d'accueil improvisées. Pour la fondation Kinalego, le temps presse. L'État congolais doit prendre des dispositions nécessaires pour stopper cette progression, dit-il.
Ça peut commencer très lentement comme ça, mais à un certain moment, ça prend l'allure jusqu'à freiner même le développement de cette entité, l'extra orientale. Il faudra prendre des dispositions à la frontière du Sud-Soudan. Si cela n'est pas fait, on observera au pire dans les jours à venir.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans les territoires de Lubero, au nord Kivu, un retour progressif des populations est observée dans le groupement de Mouigné. Ses habitants avaient fui, il y a plusieurs semaines, les attaques des ADF dans la région. Plus de détails avec Martial Papimoukeba.
Le retour des populations à Mouigné est observé depuis environ une semaine. Ces familles s'étaient déplacées notamment vers Boutouré, dans la chefferie de Bachou, en territoire de Béni, ainsi qu'en ville de Boutembo, fuyant les attaques violentes des ADF en janvier dernier dans les groupements de Mouigné. Selon la société civile locale, les activités reprennent progressivement sur place, notamment dans la localité de Vourondo. Petits commerces, boutiques et écoles rouvrent peu à peu leurs portes. Cependant, ce retour reste timide et s'effectue dans un climat de peur encore persistant au sein de la population. Face à cette situation, la société civile appelle les forces de sécurité à intensifier leurs efforts pour stabiliser durablement la région. Depuis début mars, les FRDC ont renforcé leur présence dans plusieurs zones touchées par les attaques des ADF dans les sites du territoire des Lubero. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, le manque de subventions depuis plusieurs mois a fortement dégradé les conditions de détention à la prison centrale de Punia, désormais jugée inhumaine. Le directeur de l'établissement l'a déclaré hier dimanche après le décès d'un détenu des suites d'une courte maladie. Tunenge Mugnololo précise qu'à ce jour, les prisonniers survivent uniquement grâce aux aides extérieures. Il souligne également que la prison centrale de Punia, construite en 1940 avec une capacité d'accueil de 250 pensionnaires, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Ces propos ont été recueillis par Florence Kizalunga.
Il y a un décès d'un de nos détenus. Le condamné s'est évadé. Il a passé 5 jours dans la forêt. Il ne mangeait pas. Il n'avait pas l'abri. À partir de la situation, il a été traumatisé. Raison pour laquelle, quand on l'a récupéré, il n'avait plus la force. Et au dernier moment, il a eu une diarrhée. Et brusquement, il est décédé. Vous connaissez la situation de notre pays. Nous sommes en guerre. Et ces derniers temps, on ne reçoit pas la subvention. Nos détenus vivent dans des conditions très difficiles. Dans des conditions inhumaines. Ils n'ont pas à manger. Ils passent nuit 2 ou 3 jours sans manger. Il faut maintenant intervention du directeur de la prison, passer par-ci, par-là, chercher à manger pour le détenu. Raison pour laquelle ils vivent dans des conditions inhumaines. Et de bonne volonté de nous aider à cette situation amère.
Au Nord Kivu, près de 100 000 habitants des groupements de Kibumba et Buhumba ont désormais accès à l'eau potable. Une première depuis la création de ces entités du territoire de Nyiragongo. Le projet d'adduction d'eau baptisée l'eau pour les Virunga a été officiellement inauguré samedi dernier à Kibumba. Un projet financé par les royaumes des Pays-Bas et mis en œuvre par un consortium de partenaires dans le cadre de la collaboration transfrontalière du Grand Virunga, regroupant la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Bernard Nyangi pour le détail.
C'est dans une ambiance de grande joie que les habitants de Kibumba et Bumba ont vu samedi l'eau couler pour la toute première fois des robinets installés dans leur commune rurale, une zone dépourvue de toutes sources naturelles ou rivières depuis toujours. Financé par le gouvernement néerlandais, le projet d'adduction d'eau potable avait été lancé en décembre 2016 par Water for Virunga et MDEV Global. Les travaux devaient initialement s'achever en mars 2021, mais l'insécurité persistante dans la région avait fortement ralenti l'exécution. L'implication de Virunga Énergie, il y a environ 2 ans, a permis de relancer et finaliser le chantier aménagement de sources de captage à Kamira, dans le groupement Jomba en territoire de Rutshuru, construction des stations de pompage et de repompage, ainsi que leur alimentation en électricité. Au total, les partenaires ont posé 39 km de canalisation. Le réseau de distribution comprend 38 bornes fontaines et capable de desservir plus de 70 000 habitants des groupements de Kibumba et Bumba. Selon Virunga Énergie, l'un des objectifs du projet est également de réduire les tensions communautaires dans cette zone partagée entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda.
Et puis, cette bonne nouvelle pour les policiers installés au camp Nyongolo dans la commune de Kanchi, dans le Kasaï oriental. Ce site, menacé depuis plusieurs années par l'avancée des ravins, bénéficie désormais d'un projet de sauvetage. Les travaux de lutte anti-érosive et de construction routière ont été officiellement lancés hier dimanche par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, en présence de plusieurs personnalités. Des explications avec Esther Ndalafina.
Charles Mwanzalulu, directeur provincial intérimaire de l'OVD, a présenté la fiche technique du projet. Celui-ci prévoit 2 phases majeures. La phase 1 consiste en la modernisation et asphaltage d'une route d'1,5 km reliant l'Institut Kalenda Mudichi à la nationale numéro 1 près du pont Lubilanji. Tandis que la deuxième phase est consacrée à la construction d'une route en terre battue de 700 mètres partant de l'Institut Kalenda Mudichi jusqu'au site érosif de Chamba, désormais maîtrisé. Le chantier inclut également la réalisation des caniveaux et des collecteurs d'eau pour renforcer la durabilité des infrastructures. La durée des travaux est estimée à 24 mois. L'objectif est de stopper la progression des 13 têtes de ravin qui menacent non seulement le camp Nyongolo, mais aussi plusieurs infrastructures socio-économiques de base de la commune de Lakanché. Ce projet redonne également espoir aux habitants des quartiers Dubaï, Kassamaï, longtemps exposés au risque de disparition suite aux têtes de ravin. Esther Nalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans la province du Lualaba, les habitants du village Mukumbi, dans le groupement Kazembe, en territoire de Mouchacha, accusent l'entreprise Chemaf de les avoir déguerpis de leurs terres pour l'exploitation minière. Dans une déclaration samedi dernier, ces habitants disent avoir perdu leurs biens et vivent actuellement dans de mauvaises conditions. Ils demandent une indemnisation de la part de cette entreprise. Plus de détails avec Paul Mounanga.
D'après les habitants du village Mukumbi, les activités minières de l'entreprise Chemaf ont causé d'importants dégâts environnementaux. En outre, ils accusent Chemaf d'avoir détruit leurs champs et leurs habitations. À en croire les victimes, elles vivent dans de mauvaises conditions et en appellent à l'implication des autorités de la province du Lualaba. Nous avons beaucoup souffert. Nous demandons aux autorités du Lualaba, dont la gouverneure Fifi Masuka, de nous venir en aide. Mukumbi, c'est notre village. Nous y avons vécu pendant plusieurs années et nos enfants y ont étudié et cultivé. Mais l'entreprise Chemaf est venue et nous a déguerpis de cet endroit sans nous indemniser. Nos enfants et nos biens ont été brûlés à cet endroit. Et actuellement, nos enfants n'étudient pas et nous passons la nuit dans des églises. Qu'ils écoutent nos pleurs. Premièrement, j'ai dit à Madame la gouverneure Fifi Masuka que nous, les habitants du village Mukumbi, nous avons beaucoup souffert. Nous dormons avec beaucoup de difficultés. L'endroit où nous vivons avec nos enfants ne mérite pas que Madame Fifi Masuka nous vienne en aide.
Maman Masuka, yo ke la biso mawa.
Nous avons tenté en vain d'obtenir la réaction de l'entreprise minière Chemaf ainsi que celle du ministre provincial des mines du Lualaba. Lubumbashi, Paulin Mounanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Mauritanie, les représentants de la majorité présidentielle et des deux coalitions de l'opposition ont repris ce 6 avril 2026 à Nouakchott des discussions autour d'un dialogue national. Des discussions qui bloquent pour le moment sur la question du nombre des mandats présidentiels. Cette reprise des réunions préparatoires intervient par ailleurs dans un climat social lourd, marqué par des manifestations contre la vie chère dans la capitale.
L'invité.
Les ménages de Kindu au Maniema rencontrent de grandes difficultés pour accéder à l'eau potable. Cette problématique a été au centre d'un dialogue communautaire la semaine dernière à Kindu, une initiative de l'église de Mangembo. Pour en parler, nous recevons le coordonnateur de cette structure, le pasteur Jacques Samine. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Pasteur Jacques Samine, bonjour.
Bonjour, madame Florence.
Alors, organiser aujourd'hui les dialogues communautaires autour de cette problématique d'approvisionnement en eau potable, qu'est-ce que vous visez?
Merci beaucoup pour la question, madame. Organiser ces dialogues communautaires tout autour de l'approvisionnement de l'eau dans certains quartiers de la ville de Kindu était très important parce que après les constats que nous avons eu par rapport aux plaintes de la population de la ville, il y a des lieux où la régie des eaux n'est plus à mesure ou n'est pas à mesure d'amener à la population de l'eau jusque dans les petits coins. Alors que la ville est en train de grandir, mais la régie des eaux, depuis son arrivée à Kindu, reste seulement dans la limite dans laquelle elle a été capable de livrer cette eau à la population.
Vous avez été ensemble avec la régie des eaux dans ces assises. Quelles sont les raisons que la régie des eaux avance pour qu'il ne puisse pas servir de l'eau dans l'ensemble de la ville ou soit de la province?
Pour la régie des eaux, leur défense était que depuis que la régie des eaux a été régie des eaux au Maniema, il y avait le matériel dont on l'a doté. Ce matériel avait une capacité de fournir de l'eau juste à un certain niveau. Mais jusque-là, par manque de matériel, par manque de renouvellement de ce même matériel, la régie des eaux est à un niveau d'incapacité de fournir de l'eau jusque dans le lieu un peu reculé de la ville de Kindu. Et aussi même là où elle donnait de l'eau, elle n'est plus à mesure de donner de l'eau parce que les matériels ne sont plus habilités à le faire.
Maintenant, votre dialogue communautaire avait aussi les soucis de détecter ces problèmes pour en faire quoi, enfin?
Oui, notre dialogue communautaire avait les soucis, comme ça réunissait toutes les autorités locales, les représentants du gouvernement provincial. Notre dialogue avait comme l'objectif que de voir quels sont les problèmes qui empêchent à ce que l'eau ne soit pas à la portée de toute la population de Kindu. Et quand on a discerné les problèmes, on a pris quand même des décisions et on a pris quand même des propositions à donner. Et dans ces propositions, on a demandé au gouvernement provincial ou au gouvernement central d'aider la régie des eaux à leur fournissant des matériels nouveaux afin qu'ils soient capables d'aller plus loin par rapport à la limite dont elle sort de l'eau. Qu'elle soit aussi capable aussi de donner même à cette limite-là de l'eau régulièrement.
L'eau potable est devenue d'arrêt très rare dans la ville de Kindu. Vous pensez que cette façon de parler, les autorités vont écouter parce que ce n'est pas la première fois que cette situation, bien cette question a déjà été traitée dans la province du Maniema. Qu'est-ce qui vous rassure que votre voix sera écoutée?
Oui, par rapport à cette nouvelle donne, nous sommes de la coordination nationale de l'ouverture de l'espace civique. Et dans cette ouverture de l'espace civique, nous avons jugé bon que ce n'est pas seulement crier qu'on peut trouver les solutions par rapport au problème. Mais il a fallu aussi se mettre en face de ces autorités, en face de ceux qui gèrent ces domaines-là et les conscientiser afin de trouver cette solution-là. Et nous croyons que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est une nécessité très importante pour chacun de nous dans la ville et le gouvernement provincial. Nous le demandons de venir en aide à la régie des eaux afin de lui donner des moyens. Nous avons écouté les problèmes, nous avons écouté la défense de la régie des eaux. C'était juste par rapport à un montant que le gouvernement peut être capable de donner ce montant-là afin d'élargir les conditions de donner de l'eau à la population du Maniema. Et nous ne sommes pas limités là-bas. Nous avons fait aussi appel à ZIREP. Ont été aussi sensibilisés organisés afin qu'ils puissent quand même améliorer leur manière de servir de l'eau, parce que l'eau potable est très importante et c'est la vie même pour la population. Ce problème-là dépasse les gouvernements provinciaux. C'est pourquoi nous tendons la main au gouvernement central de financer la régie des eaux afin qu'elle soit capable de disposer à toute la population de la ville de Kindu l'eau qu'il faut, parce que l'eau, c'est la vie.
Pasteur Jacques Samino, je vous remercie.
Moi aussi, je vous remercie, madame.
C'était notre invité, le coordonnateur de l'église Mangembo dans le Maniema, le pasteur Jacques Samine, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. Fin de ce journal qui a été préparé par Elisa Tikota et Levin Bunga. Patrick Kassongwa et Pierre Diassounoua ont assuré la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. À vous, merci de l'avoir écouté.